Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. Cette émission sera un peu, je veux pas dire particulière, mais on avait des idées de grandeur en faisant la révision de plusieurs films de 2024 là, qui sont sortis un peu plus tôt, mais qui sont disponibles maintenant sur des plateformes de streaming. J'essaie de former lentement mais sûrement mon top 2024 de mes films préférés, mais la réalité familiale m'a rattrapé avec des enfants un peu grippés en ce moment. Je ne pourrais pas faire l'émission de 2 heures que j'espérais, donc on va se reprendre pour la semaine prochaine. Donc cette semaine, quand même, on a un bon programme d'une heure. On aura notamment le réalisateur du plus récent, du film La cartomancie du territoire, donc Philippe Ducrot, qui va venir nous parler un peu de ce film-là qui sera en projection ce dimanche à la Maison du cinéma. Je vais également vous parler d'une autre nouveauté qui sort aujourd'hui, donc le film Flow. On n'en a pas beaucoup entendu parler, je crois, là, mais rapidement, il est arrivé dans les conversations comme étant l'un des meilleurs films d'animation de cette année. Déjà été nommé au Golden Globes dans la catégorie évidemment meilleur film d'animation, et puis c'est ça, je l'ai vu, il prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma, donc je vais vous en glisser un petit mot, et je vais également vous parler justement des Golden Globes et de leurs nominations là, qui ont été annoncées. Ce sera probablement vers la fin de l'émission. Et je reçois ma chroniqueuse invitée, Émilie Boivin, qui vient nous parler un peu de ses suites tardives avec comme exemple type le film Beetlejuice. Donc voilà, ce sera un programme somme toute quand même un peu chargé dans cette édition. Donc je commence peut-être avec les films qui prennent l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Donc la plus grosse sortie, c'est le film qui s'annonce déjà malheureusement un flop, Kraven the Hunter, donc Kraven le chasseur de J.C. Shandor, qui pourtant a fait quand même certains bons films, Margin Call, il a fait All is Lost, The Most Violent Year, et puis là, il embarque dans la machine Marvel avec ce spin-off, c'est pas un spin-off là, mais c'est ce film sur un personnage de l'univers de Spider-Man, donc Kraven, qui est joué par Aaron Taylor-Johnson. Bon, ce film-là a plusieurs red flags depuis son annonce là. Il a été repoussé je sais pas combien de fois, je me souviens pas, je pense pas qu'ils ont changé de réalisateur là, mais c'est ça, il y a plusieurs problèmes de production, je pense qu'ils ont dû faire des reshoots et tout ça, mais bref, c'est ça, je m'attendrai pas trop là-dessus parce que je l'ai pas vu notamment, mais il y a Russell Crowe qui joue dedans, Alessandro Nivola, Ariana DeBose également, donc les critiques sont particulièrement mauvaises malheureusement de ce film-là, mais si vous aimez les films de c'est pas un super-héros, c'est un super-vilain, mais bref, si vous aimez les films de Marvel, j'imagine que vous allez quand même allez le voir. Peut-être y trouver votre compte, on ne sait pas. Sinon, il y a le film d'animation Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, qui est une adaptation je sais pas exactement de quel conte, je sais pas si c'est les contes et légendes perdus, mais c'est comme une histoire originale, mais puisée dans le lore du Seigneur des Anneaux. Et puis c'est fait par Kenji Kamiyama, donc c'est un animé d'une certaine façon. Et puis ça m'en vedette Brian Cox, Miranda Otto et Sean Dooley. Miranda Otto qui revient justement après avoir joué dans la trilogie originale du Seigneur des Anneaux. Lui aussi a peut-être des critiques un peu plus tièdes que ce à quoi je m'attendais, mais ça a l'air quand même assez... si vous aimez l'esthétique des animés japonais, je crois que vous allez trouver votre compte. Là. Le résumé dit « L'histoire du puissant roi de Rohan, Helm, Amerand et une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu. L'action se déroule environ 250 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, ce sera cette fameuse première bataille du gouffre de Helm qui est bien présente dans le second film de la trilogie originale. Sinon, d'autres nouveautés qui prennent l'affiche, il y a notamment le film Queer, le deuxième film de 2024 de Luca Guadagnino, qui a fait un tabac quand même à la Mostra un peu plus tôt cette année. Ça met en vedette Daniel Craig, Leslie Manville, Drew Starkey. Et puis, ça s'intéresse en fait à un expatrié américain à Mexico dans les années 50 qui passe ses journées presque entièrement seul, à l'exception de quelques contacts avec d'autres membres de la petite communauté américaine. Sa rencontre avec Eugene Allerton, un ancien soldat expatrié nouvellement arrivé dans la ville, lui montre pour la première fois qu'il est peut-être enfin possible d'établir une connexion intime avec quelqu'un. Queer. Un peu comme le film là dans son titre. Donc, c'est ça, une histoire justement d'homosexualité dans les années 50. Le film a vraiment là, des très, très bonnes critiques. Je vais y revenir tantôt quand je vais parler de les nominations Golden Globes. Est-ce que ce sera le score de Daniel Craig? Peut-être, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, je crois, qui se sont beaucoup démarqués. Peut-être Timothée Chalamet dans Complete Unknown, qui n'est pas encore sorti là, officiellement. Mais c'est sûr que Daniel Craig sera de la discussion. Et puis là, ben, je vais parler justement de mes deux nouveautés de cette semaine. Je commence avec le film d'animation Flow, donc de Gins Zilbalodis. Je crois que c'est un Lituanien, là, je ne suis plus certain. Mais c'est un film d'animation muet qui ressemble quand même beaucoup esthétiquement à un jeu vidéo. On y suit un chat qui vit sa vie. Et puis un jour, il y a une inondation immense, là, vraiment plusieurs... centaines de mètres d'élévation d'eau et puis qui recouvre presque tout le territoire. Et puis, c'est ça, on le suit, lui et d'autres animaux, notamment un capybara, un oiseau, là, je sais pas si c'est un pélican là, ou une grue peut-être, un lémurien. Et puis, c'est ça, ils se promènent un peu dans cet univers-là en essayant de, premièrement, de survivre, mais aussi pas de régler la situation, là, parce que contrairement à d'autres films d'animation, en plus qu'ils soient muets, c'est ça, on n'essaie pas nécessairement de leur attribuer des caractéristiques humaines. On n'essaie pas trop de les personnifier comme des humains, mais des animaux. Là, donc, ils vivent vraiment leur vie d'animaux à travers tout ça. Et puis, c'est vraiment un récit très, très charmant, malgré pas la dureté, là, mais c'est un film de survie. Puis je lisais une critique Letterboxd qui représentait quand même assez bien le feeling qu'on vit en regardant ce film-là. C'est un doux stress, quelque chose comme ça. On est toujours en train de se demander est-ce que le chat va s'en sortir, est-ce que la gang d'animaux va s'en sortir, parce que c'est pas facile. C'est comme un film survival ou un film catastrophe, si on veut. Puis il y a ce stress-là, mais en même temps, vu qu'il n'y a pas de dialogue, vu que ce sont des animaux qui n'ont pas d'émotion, c'est quand même assez doux, un peu contemplatif par moment. L'esthétique, c'est ça, ça pourrait déranger certains. Là. Ça ressemble vraiment à... Je sais pas. Je sais pas si c'est négatif ou positif, mais comme à des cinématiques de films de PlayStation 2. C'est très simpliste comme cinématique. D'ailleurs, je lisais que le film a été fait sur des logiciels open source et par une équipe très, très réduite. Et c'est quand même impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Puis ça nous ramène un peu au fait que... à la fois le pouvoir de l'animation, c'est-à-dire de pouvoir mettre en image ce qu'on n'est pas capable de faire avec des vraies caméras ou du vrai genre ou des vrais animaux dans ce cas-ci, et aussi peut-être le pouvoir du cinéma muet ou des images, c'est de se laisser porter d'image en image, puis comment raconter visuellement une histoire. Je trouve que le film le fait très bien et il sera assurément, je crois, de la course de l'Oscar du meilleur film d'animation. Le réalisateur a quand même fait d'autres films similaires, notamment le film Away, qui cette fois c'était... en tout cas, c'était relativement similaire. Là. J'ai pas le synopsis devant moi. Mais c'est ça, il fait beaucoup de... Il fait juste de l'animation, là, essentiellement. Et c'est très, très bon. Je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Même pour des enfants, là, c'est quand même bon, je crois, là, qui ils vont être captivés malgré qu'on n'a pas la frénésie ou l'excentricité d'un Despicable Me 4 ou des films Pixar. Je crois vraiment que c'est ça, c'est un film qui est quand même capable de capter notre attention. Tu sais, j'avoue, sur le plan personnel, pas avoir été non plus en territoire inconnu, là, je suis un grand fan de science-fiction, de récits dystopiques, des trucs comme ça, puis tu sais, j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette histoire-là ailleurs, que ce soit dans des jeux vidéo, justement, ou dans d'autres films d'animation, mais je crois qu'il est très, très bien fait quand même, puis il vaut vraiment la peine d'être vu. Donc, allez voir ça, Flo, de Gintz Zilbalodis. Pardon. Gintz Zilbalodis. Voilà. Allez voir ça. Ça prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Et sinon, il y a le film La cartomancie du territoire qui est inspiré là, d'un livre et d'une pièce de théâtre, je crois, de Philippe Ducrot, sorti en 2016 et qui raconte essentiellement sa propre histoire, donc mais l'histoire d'un Québécois francophone surmené comme beaucoup d'autres à notre époque. Il part en road trip vers certaines communautés des Premières Nations du Québec à la recherche de sens, de guérison et d'une manière de lire le monde. Il tente de comprendre là je lis évidemment le synopsis officiel, il tente de comprendre les ravages du colonialisme perpétré sur ces nations par un système qui le favorise encore. Il cherche à voir ce qui a été fait en son nom, avec l'intuition qu'à travers ces gens, il comprendra mieux sa détresse. Son périple le mène jusqu'en milieu carcéral où la surreprésentation autochtone est symptomatique des traumatismes de ces communautés que ces communautés portent en héritage et du système, du racisme systémique, en fait, qui dure. Donc, le film mélange un peu... Oui, c'est un documentaire, mais j'ai un peu de la difficulté à le catégoriser comme tel parce qu'il y a quand même une part de fiction ou plutôt une part de poésie qui s'ajoute aux images qui sont présentées et aux témoignages qui sont racontés. La grande force du film, c'est assurément le texte. Vraiment, là, il y a des... pas tout le temps, là, mais... quand même assez souvent quand il y a des moyens ou longs monologues ou justement cette narration-là qui est présente par-dessus ces images sublimes pour vrai du territoire. Il y a toujours une phrase ou deux dans cette longue narration-là qui finit par s'imprégner en nous, qu'on se dit « Ah, okay, mais la tournure est vraiment intéressante ou la réflexion ici est vraiment intéressante. » Puis je pense que le texte en soi est vraiment très, très puissant, très, très pertinent, très, très d'actualité. Encore une fois, il jase de pensionnat. On pose des questions justement sur, oui, le milieu carcéral, mais aussi justement comment est-ce qu'on a ghettoisé ces populations-là des Premières Nations, puis comment est-ce qu'ils ont à toute fin pratique aucun... pouvoir ou on leur laisse justement, on impose notre domination sur ces peuples-là. Donc c'est vraiment très très fort comme texte, puis c'est rehaussé je crois justement par cette belle direction photo-là du film là, qui doit être vu sur grand écran, je crois là, on n'a pas je suis pas prêt à dire qu'on a un accès privilégié aux réserves là, parce qu'il y a des images qui ont été tournées, mais c'est pas le but central du film non plus. Mais il y a justement il y a toute cette notion du territoire là qui est aussi dans le titre du film, qui est vraiment très importante et qui est comment dire peut-être un peu paradoxal parce que on essaie ou en tout cas le système a essayé de faire d'enlever justement à la fois ce territoire, mais aussi cette connaissance du territoire-là aux populations des Premières Nations pour les entrer dans un moule qui n'est pas vraiment blanc nécessairement parce que on ne les met pas sur un même pied d'égalité que les Blancs. On essaie de leur inculquer certains trucs qui nous ont marqués, nous, les Blancs, c'est-à-dire notamment la religion, ou en tout cas, bref, on essaie de leur imposer, de leur gaver de force tout ça, mais tout en essayant de les dénaturer, justement. Donc, ce film-là vise plus à... Oui, à donner la parole, mais juste à se questionner un peu sur comment nous, qui n'avons pas pris ces décisions, comment on est malgré tout responsable de tout ça et de ce qui arrive aux communautés des Premières Nations. C'est vraiment très, très fort, très, très pertinent. Puis, ben, je vous invite à la projection, justement, qui va être à la Maison du cinéma, là, ce dimanche à 12h30. On va, justement, approfondir un peu plus les thématiques du film dans l'entrevue qu'on va faire tout de suite après la pause. Donc, restez les nôtres.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation, le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec le réalisateur Philippe Ducrot qui sera de passage à la Maison du cinéma ce dimanche pour présenter son long métrage La cartomancie du territoire. Salut Philippe, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va super bien, merci. D'abord, je tiens à te féliciter pour ce long métrage qui est, ma foi, fort magnifique et fort pertinent. C'est une, pas nécessairement une adaptation, mais bref, tu reprends un peu là, le livre que tu avais publié en 2016. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser cette expérience-là plus loin puis de le transformer en long métrage?
Ben, de prime abord, j'ai commencé toute cette démarche-là pour faire une pièce de théâtre. Je l'avais déjà, moi, fait une pièce sur l'occupation de la Palestine, sur le rôle des minières canadiennes en République démocratique du Congo. J'avais déjà travaillé beaucoup sur le colonialisme. Puis, je trouvais que c'était important quand même de réfléchir au colonialisme qui est sur le territoire qui m'habite, moi, qui est le Québec. Donc, inévitablement, il fallait que je commence à réfléchir à cette question-là. Puis, ma compagnie s'appelle les productions Tel Motel. Donc, nous, on fait du théâtre à la base. Mm-hmm. Puis, on a créé cette pièce-là en 2018. C'est le texte qui est publié. Le livre, c'est le texte de la pièce qui a été publiée. C'est sûr qu'il y avait déjà des modifications. Mais après ça, on l'a joué. On a fait 80 représentations. On a joué jusqu'en 2023. Puis on continuait. Puis la mise en scène de la pièce était axée beaucoup sur l'image. Je voulais que le paysage, que le territoire soit un personnage en soi et qu'il y ait des choses à dire lui-même seul. C'était vraiment... Parce que quand je parlais avec... c'est une pièce sur notre rapport aux Premières Nations puis au colonialisme qui a été fait en notre nom. Ça réfléchit au système que j'ai hérité, moi, en tant que... qu'allochtone dans ce Québec-là, dans ce Canada-là. Et donc, je suis allé vers les Premières Nations, puis j'ai beaucoup discuté avec des gens, dont des survivants des écoles résidentielles, là, les pensionnats, qui m'ont dit beaucoup que le retour au territoire et le retour à la langue, c'était là qu'ils trouvaient la guérison. Donc, j'ai décidé de faire du territoire et de la langue les axes directeurs de ce film-là, les axes d'esthétique du film. Et donc, déjà, la mise en scène de la pièce avait un énorme écran vidéo avec des images projetées. Il y avait déjà eu un tournage, il y avait déjà des images prises par drone, il y avait déjà... il y a eu beaucoup des images du film qui viennent de cette période-là. Puis, étant donné que le projet a très bien marché, puis que je pense qu'il faut encore parler de ces thématiques-là, puis qu'il faut continuer le travail d'introspection, on a décidé de pousser l'aventure un petit peu plus loin. Ça s'y prêtait bien, puis on a décidé de faire un long-métrage avec ça, qui tourne depuis septembre dernier.
Mm-hmm. Puis, c'est ça qui a fait sa première, je crois, au Festival de cinéma de la Ville de Québec.
Oui.
Il y a... on dirait que plus le temps avance, plus on des histoires d'horreur sur les pensionnats, sur ce qui se déroule dans les réserves. Bref, continue à resurfacer, ce qui rend le texte aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en 2016. Dis-moi un peu, là, quel a été, pas nécessairement... comment tu as été accueilli au sein des communautés que tu es allé voir? Parce que, j'ai l'impression, mais c'est très tabou, je crois, dans notre société que le concept de réserve encore aujourd'hui. On sait tous et toutes que ça existe, mais personne n'est déjà allé ou à peu près. On a tous l'impression que c'est un endroit un peu... je sais pas, fermé, cloisonné un peu, soit par aveuglement volontaire de la population générale, ou soit... bref, justement, comment tu as été reçu au sein de ces communautés-là?
Mais quand Moi, j'ai une habitude pour écrire tout le site que j'ai fait sur l'occupation de la Palestine. Je suis allé à 6 reprises au Moyen-Orient, dont 3 fois en Palestine occupée puis en Israël. J'étais là pendant les bombardements de 2009, l'opération Plomb durci. Donc, puis j'ai fait la même chose pour la République démocratique du Congo, là, pour le rôle des minières canadiennes dans le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale qui a lieu là-bas, là, avec ses 6 millions de morts. Mm-hmm. J'ai pris un vol humanitaire de l'ONU pour me rendre jusque dans la zone de conflit, pour aller jusque dans le camp de déplacés internes. Donc, j'ai fait la même démarche que j'ai faite. Donc, j'ai pris mon auto pour aller là-bas. La seule chose, c'est que quand j'étais en Palestine ou quand j'étais au Congo, j'ai une apparence de neutralité. J'ai l'air d'être extérieur, même si c'est pas vrai. Il y a un sanctuaire d'oiseaux en Israël qui s'appelle le Stephen Harper Bird Sanctuary. Il y a un parc qui s'appelle le Parc Canada. Le Canada a été un soutien assez indéfectible malgré l'ampleur de l'horreur de ce qui se passe actuellement et malgré toutes les traces et tous les avertissements qu'il y a un génocide qui a lieu de la part de la Cour pénale ou de l'Amnesty International, le Canada reste encore derrière Israël, ce qui, à mon sens, est très honteux. Mais moi, j'avais l'apparence de la neutralité. Cette apparence-là, c'est factice. Mais quand je débarque dans les Premières Nations, j'ai pas cette apparence de neutralité-là. Alors, ce que je faisais, c'est que j'expliquais, je disais que je faisais un travail d'introspection, que je réfléchissais aux choses qui ont été faites en mon nom. Puis, eh ben, il y a des gens qui ont décidé, qui, entre autres, des survivants des pensionnats qui n'ont pas voulu me parler. Mm-hmm. Mais il y en a tranquillement qui ont décidé. Puis c'est comme tout, là, c'est qu'il faut y aller tranquillement. Puis il faut pas débarquer avec nos grands chevaux. Il faut débarquer avec un désir de connaître, de rencontre, un désir de d'humanité, là, de dire que c'est qui ces gens-là que je rencontre, là, qu'ils ont des choses à me raconter. Puis de la même manière que quand toi et moi, on se rencontre dans la rue, ben on essaie de parler de choses et d'autres, ben tranquillement, on apprend à se connaître. Puis je leur expliquais un peu c'était quoi. Puis je connaissais déjà beaucoup la communauté de Guiscapé-Guiac chez les Mi'kmaq. Donc ça, à travers les contacts que j'ai là, des aînés qui travaillent, entre autres, dans les milieux carcéraux. J'ai réussi à me rendre jusqu'au pénitencier de New Carlisle parce qu'il y a une surreprésentation des personnes issues des Premières Nations et des Inuits en milieu carcéral. On dit qu'il y a 3 à 4 % du Canada qui est issu des Premières Nations et des Inuits ou des Métis. Mais quand on rentre en prison, c'est 25 % chez les hommes, 33 % chez les femmes. Et donc, il y a un leg intergénérationnel de déstructuration, d'automédication, de traumatisme qui n'est pas encore réglé. Donc, je voulais aller jusqu'à là-bas. Mais donc, et tranquillement, étant donné que c'est un travail que je trouve de curiosité, puis je leur expliquais, je leur disais, ben j'ai parlé de colonialisme à l'extérieur, je trouve que c'est important de parler de colonialisme ici aussi. Puis tranquillement, il y a des gens qui ont accepté de me rencontrer puis de me parler.
Ben justement, pas nécessairement qu'est-ce qu'on peut faire, là, mais comment aller démystifier ou en tout cas je sais pas si c'est un terme, détabouiser tout ça. Là, toi, tu as fait ça sur le plan personnel, d'essayer de comprendre justement là, comment est-ce qu'on a pu collectivement mettre en place ce système-là qui est ce racisme systémique-là. J'imagine que c'est un peu pour ça aussi que tu l'as transformé en long métrage. Peut-être que ça permet, avec les tournées de salles et tout, et toi qui physiquement se promène de salle en salle aussi, d'aller à la rencontre, de créer un lieu de discussion que le théâtre peut-être permettait moins. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça l'un des objectifs peut-être de ce long métrage-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour en parler puis agir? Comment est-ce qu'on peut agir justement pour essayer de changer tout ce racisme systémique-là qui a été mis en place?
Bien, quand j'ai commencé ce processus-là, on était en plein gouvernement Stephen Harper, on était en 2015-2016. À l'époque, le gouvernement fédéral ne reconnaissait pas la Charte des droits des Premières Nations de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Il ne voulait pas faire de commission sur les femmes disparues et assassinées. Il y avait une espèce de silence radio qui était très fort. Or, maintenant, on est rendu plus loin. C'est sûr que j'ai tendance à croire que qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle du redwashing, là. Il y a mm-hmm. beaucoup d'instrumentalisation de la question des Premières Nations. Mais il y a eu des pensionnats, il y a 150 000 jeunes des Premières Nations et des Inuits qui ont été envoyés dans les pensionnats, dont 6 000 sont jamais revenus de ces pensionnats-là entre le 19e et le 20e siècle, jusqu'en 1996. Le dernier pensionnat a été fermé en 1996, c'est hier, là. Il y a eu ça, et pour l'objectif avoué des pensionnats, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant. Là. Toute la loi sur les Indiens, c'est toujours le même principe. C'est on va assimiler ces gens-là, on va tuer l'Indien dans l'enfant. Si on tue l'enfant en même temps, mais c'est pas si grave que ça. Là. Donc, tout ça, il y a eu une commission qui s'appelle la commission Vérité et Réconciliation. Qui a été un moment important de l'histoire, d'après moi, de la guérison. Mais avant qu'il y ait ce concept-là de réconciliation, moi, je pense qu'il faut que la vérité soit mise sur la table. Et c'est un peu ce que je pense qu'on se doit de faire tous. On se doit d'être intéressé, de réfléchir, de poser des questions, d'aller vers ces gens-là, d'écouter, dans un désir d'écouter, sans débarquer en disant « qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Mm-hmm. Juste en disant « qu'est-ce que je peux faire, moi, pour écouter, pour faire ma part de la chose? » Parce que c'est pas des gens qui ont nécessité, c'est des gens qui sont dignes, qui sont fiers, ils n'ont pas besoin de notre aide. Là. C'est des gens, même si officiellement, ils sont encore les enfants d'Ottawa, ils sont encore instrumentalisés, infantilisés, parce que c'est comme ça la loi sur les Indiens, ouais. Ça fait de eux des enfants d'Ottawa. Nous, il faut quand même qu'on débarque, qu'on change notre regard, puis qu'on arrive. Moi, je pense qu'on a des choses à apprendre. Je pense qu'on a des choses à comprendre. Je pense qu'il faut qu'on fasse face à notre passé. Je pense qu'il faut qu'on fasse acte de vérité, d'introspection. Et c'est ce que je propose. Et il y a beaucoup de gens là, en ce moment qui sont dans la même démarche. Là. Puis les Premières Nations sont très audibles à cet égard-là. Ils ont le goût de parler de leur propre réalité. Les Inuits aussi. Là, fait que maintenant, je pense qu'il y a comme un mouvement qui a eu lieu dont on ne peut plus revenir en arrière. On a beaucoup parlé des tombes de Kamloops dans l'Ouest canadien et des autres fosses communes qu'on a découvertes d'enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ces chiffres-là, moi, quand j'ai commencé en 2015, ces chiffres-là étaient déjà sur la table. Tout le monde, c'était déjà connu, tout ce qui s'est passé. Là. C'est juste que maintenant, on a quelque chose qui est médiatiquement plus frappant. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il faut juste qu'on prenne le temps de faire un travail d'introspection en tant que pays, en tant que nation, en tant que descendant de ce héritier de ce système colonialiste-là, puis qu'on aille jusqu'au bout du travail, puis qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de décoloniser nos rapports humains et le territoire.
Ouais. Je veux terminer parce que je vois le temps qui file malheureusement, mais je veux juste souligner justement la beauté du documentaire. Oui, la beauté visuelle, mais aussi la beauté du texte qui, tu sais, je sais pas si tu as ajuster des petits trucs depuis 2016 aussi, avec tout ce qui s'est passé.
Une adaptation. Le texte a évolué, le texte a été retravaillé. Mais j'apprécie tes bons mots. C'est un projet auquel on croit beaucoup et qu'on trouve important.
Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, la beauté du texte, mais aussi la beauté des témoignages qui sont présentés, la poésie aussi qui ressort de tout ça. Là, c'est toujours. Je dis de la poésie. Là, le but, c'est pas de. Le but, c'est pas d'esthétiser ce qui s'y passe là, mais c'est vraiment la beauté du texte, moi, je trouve, qui ressort vraiment. Puis, appliquée aux images là, qui sont vraiment très, très forte. Je veux rappeler à nos auditeurs et auditrices là, que le film va être projeté à 12h30 ce dimanche à la Maison du cinéma. Tu seras présent discuter avec l'auditoire aussi. Puis, tu as quelques dates aussi, je crois, là, qui s'en viennent à Montréal également.
Ben, Montréal, on a fait le tour. Là. Il y a d'autres dates qui vont se rajouter, mais on était jusqu'à la semaine dernière au cinéma du musée. On a fait le cinéma public, le cinéma moderne, on a fait le festival Cinémania. On va être à Québec après Noël, on continue à tourner. Puis les billets partent vite, j'ai cru remarquer qu'il reste une quarantaine de billets seulement.
Oui, bien, dépêchez-vous.
Dépêchez-vous.
Puis Philippe Ducrot, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On s'en va de notre côté avec notre chroniqueuse invitée, Émilie Boivin, et on revient dans quelques instants.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, je rejoins ma chroniqueuse invitée, Émilie Boivin. Salut Émilie, ça va bien?
Ça va super bien, Alex, et toi?
Oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu voulais nous parler un peu des suites de franchises bien aimées, des suites qui arrivent tard, qui arrivent beaucoup de temps après le premier volet.
Oui, exactement. Évidemment, là, déjà, superbe entrée. On peut s'attendre à quelle suite, je pense. Quoi qu'il y en ait eu peut-être en 2024, d'autres là, qui ne me viennent pas en tête, mais il y a eu quand même beaucoup de suites. Mais je parle évidemment de Bételgeuse. Donc, la suite de Bételgeuse, la suite de Bételgeuse, donc qui est Bételgeuse 2. Et moi, je l'ai vu cette année et j'ai d'abord aimé le film. Il y a beaucoup à dire sur le film, je pense. On pourra s'en parler. Mais en m'intéressant, moi, c'était le 35 ans qui m'a vraiment intriguée. Et j'ai vu, je me suis demandé comment le film a réussi à être fait après 35 ans, pourquoi ça l'a pris autant de temps. Alors, je me suis penchée là-dessus et j'ai trouvé des petites choses intéressantes, donc j'ai bien hâte de vous en parler.
Oui, ben c'est ça. Il y a plusieurs suites. Habituellement, quand un film connaît du succès, c'est pas bien long après la sortie qu'on annonce une suite. Des fois, même dans le premier film, si on y croit vraiment, on fait une espèce de cliffhanger dans l'espoir qu'il y aura un deuxième. Ça marche pas toujours. Là, quand même, Beetlejuice, il y avait... ça faisait longtemps qu'on parlait de suite, mais ça se concrétisait jamais. Mais je crois qu'il y avait du potentiel justement pour une suite. D'ailleurs, il y avait eu une série animée, je crois, pas longtemps après. Mais c'est ça, ça a pris du temps. Et surtout, ben, peut-être même plus important, c'est que les acteurs principaux reviennent et le réalisateur revient aussi, là, ce qui peut faire quand même une grosse différence dans la qualité d'une suite.
Ça va faire une grosse différence pour savoir si les studios vont embarquer. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, quand je me suis penchée là-dessus, j'ai évidemment été sur Google, et puis là, j'ai trouvé toutes sortes d'articles, et c'est là que j'ai trouvé ça encore plus intéressant, parce que vraiment, là, c'est comme un peu, tu sais, les films un peu de policiers de série B, où tu vois... c'est comme le journaliste qui prend toutes les titres de journaux puis les titres de clipping puis tu vois ça avec les fils rouges puis tu essaies de faire le retracement de tout ça. C'était un peu comme ça. Puis j'ai dit, mais mon Dieu, il y a de la viande autour de ça. D'abord, tu avais un article dans Variety où ce que Michael Keaton, c'est des prix d'article, il parlait avec Mila Kunis, mais la journaliste, je pense que c'était Collider. Okay. La journaliste lui a demandé la question sur, évidemment, Bételgeuse, si ça allait se faire. Et je pense que l'article, c'était post-l'article. Donc, c'était peut-être le film est sorti en septembre, c'était peut-être la publication était peut-être en octobre. Et Michael Keaton a laissé des petites bribes comme ça. Il dit, c'était vraiment... je pense que la journaliste d'abord a demandé, est-ce que vous êtes surpris que le film ait fait autant, tu sais, 400 millions? Donc, et puis, finalement, il dit oui. Puis là, moi, je me suis dit, oh, wow, 400 millions pour un film qui n'aurait peut-être pas pu être fait. Alors, donc, lui, il dit oui, je m'attendais à ce que ce soit bon. Et là, il dit, c'est d'ailleurs pour ça, même si je m'arrête, là, j'essaie de faire une traduction d'anglais, il dit, si je m'arrête pour voir là, vraiment le plus brutement, si je pense là, à la ligne, tu sais, bottom line, aux façons à faire, c'est sûr que ça aurait été un film qui aurait réussi, ça je le savais. Puis c'est surtout aussi que c'était la seule chose que moi je voulais rejouer. Je sais pas, dans le fond, il laissait savoir, je sais pas pourquoi ça l'a pris autant de temps. Et là, j'ai essayé de voir vraiment d'autres articles. Ça m'a mené à un autre article où Tim Burton disait, moi aussi, je savais que ça pouvait être bon. On a essayé plusieurs fois, mais finalement, il y a eu plusieurs, justement, comme tu as dit, Alex, les apartés, on partait en or. Puis je voulais vraiment que si on le faisait, ce film-là, il fallait que ça soit fait du cœur. J'ai été vraiment déçue de Hollywood dans les dernières années et tout ça. Et j'ai dit, OK, il y a vraiment... C'est tout était dans le vague. J'ai dit, il y a une histoire là-dessous. Et j'ai trouvé un autre article où que Michael Keaton dit, oui, c'était dans le même, dit, oui, j'y croyais vraiment. On a poussé pendant quelques années. Puis après ça, on s'est dit, non, il est trop tard et tout ça. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que les studios ont eu plusieurs, comment je peux dire, plusieurs scripts, comme tu as dit, plusieurs choses qui ont été essayées. Il y a eu vraiment, comment je peux dire, des bandes dessinées, plusieurs affaires. Mais je pense, et ça, c'est tout à fait une théorie comme ça, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Je pense que Tim Burton, Michael Keaton, je pense que c'est ça le noyau créateur de Beetlejuice. Michael, tu sais, dans le premier film, apparemment, on ne voit que Beetlejuice pendant 17 minutes, mais le personnage est tellement coloré et tellement... C'est lui, le film. Il vole le show, Beetlejuice. C'est l'histoire des Maitland, c'est bon, c'est le fun, Deo et tout ça. Mais le film Beetlejuice, c'est Michael Keaton qui le vend. Puis comment il raconte comment lui, il a vraiment commencé par le costume puis il a pensé à une marche puis tout ça. C'est inventé, ça sort de son esprit. Donc, ils ont beaucoup fait d'improvisation et je pense, moi, ma théorie, c'est qu'ils... C'était juste un film improvisé qu'ils ont mis comme ça, qu'ils ont lancé sur le mur comme un spaghetti pour voir si ça allait marcher. Et ça a marché. Et de recréer cette histoire-là et de bien la vendre au studio, je pense que ça a passé son temps. Puis ils n'ont pas réussi jusqu'à ce que, apparemment, en 2022, c'est Plan B, la compagnie de Brad Pitt de production, qui a repris le film. Donc, et tout ce qu'on sait là-dessus, c'est que... J'ai trouvé un post sur IG. J'ai trouvé peut-être quelques vidéos qui reprenaient un article de Deadline qui était comme un article de presse là, de quelques lignes seulement, que tu disais oui, on sait que Plan B a repris le film. Il a racheté ça de Ryan Warner. Et donc, présentement, c'est en pré-production. Il n'y a pas de script d'attaché, il n'y a pas d'acteur d'attaché, donc il n'y avait pas de confirmation de Michael Keaton, il n'y avait pas de confirmation de Tim Burton de les ramener. Mais quand même, après des années, tu sais, on parle de 88 avec plusieurs apartés avec la Warner et maintenant à 2022, février, où est-ce que c'est annoncé que la compagnie de Brad Pitt reprend le film et là que le film vraiment sort en 2024, tu te dis, mais moi, je me suis super intriguée sur les politiques de films de Hollywood. Donc, jusqu'à là, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu ta petite idée, toi, Alex? Moi, je suis emballée de savoir les politiques de faire un film. Surtout que maintenant, nous, on regarde ça, évidemment, avec là, hindsight. Là. On sait que le film a réussi. On sait que ça l'a fait... Je ne sais pas, plus que 400 millions, je ne sais pas c'est quoi le dernier chiffre. Puis ça a failli pas être fait. Le film a été mis sur la tablette là, pour être oublié et empoussiéré. Et là, tu as juste un petit article qui dit que Brad Pitt a pris sa compagnie, l'a repris. Puis c'est tout. On n'a rien. On n'a pas d'histoire. On n'a pas d'entrevue. C'est pas mentionné. Dans les entrevues que j'ai vues avec les acteurs, sont super vagues. C'est super politique. Moi, je veux savoir. C'est un film en soi. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? En tout cas, je t'emballe.
Ouais, ben, c'est probablement, tu sais, je crois que Tim Burton fait quand même attention à sa ouais. marque, là. Tu sais, il y a une signature très particulière. Ça avait fait aussi des petits débats, là, quand il avait fait les deux premiers Batman, là, au début des années 90. Okay. Puis les deux derniers, mm-hmm. il les a pas faits, mais il les avait produits parce que ça restait un peu dans le ton de ces deux premiers, là. Tu sais, très expressionniste allemand, tu sais, des jeux d'ombre, des films gothiques, un petit peu. Mm-hmm. Probablement que c'est ça. Je crois qu'il devait avoir un gros contrôle sur cette marque-là. Tu sais, il y a des réalisateurs, des fois, qui, font des films, puis soit ils gardent pas le contrôle, puis là, ça fait que c'est le studio qui ramasse ça, puis ils en font des suites. Je pense à, on va dire, The Purge, par exemple, ou je sais pas, n'importe quoi, là, tu sais, que, ouais. Que chaque nouveau film a de moins en moins de budget, puis on garde toujours le nom d'origine dans l'espoir que les fans, le revoient. J'ai l'impression okay. que Tim Burton avait gardé, même si c'était à la Warner, avait gardé quand même un certain contrôle sur la marque, sur le personnage de pop culture qui était devenu Beetlejuice, puis mm-hmm. a attendu vraiment que les astres s'alignent pour le faire. Je crois qu'il a bien fait parce que
oui.
ça reste un risque calculé, là, selon moi, parce que c'est tellement, c'est ça, il est devenu, il est tellement rentré dans la culture populaire, Beetlejuice, que ouais. Les gens vont aller le voir, même si tout le monde s'attend à ce que ce soit moins bon que l'original, ou en tout cas pas à la hauteur des souvenirs qu'on en garde quand on l'a vu jeune. Le risque calculé se fait, d'après moi, parce que les gens qui l'ont vu à l'origine, à la fin des années 80, ben, vont sûrement y retourner avec leurs enfants, ou vont peut-être, tu sais, c'est ça va amener des gens puis un autre public. Je pense que ça a peut-être
ça a joué en sa faveur. Ça aurait pu très bien ne pas fonctionner non plus, là, mais outre ça, en plus, le film était quand même de qualité. Hors d'onde, je crois. Tim Burton a connu des creux de vague là, après Alice in Wonderland en 2010. Là, il a fait une série de films qui ont vraiment pas bien marché au cinéma. Puis là, ben son dernier projet, lui, enfin a marché. Puis c'était Wednesday. Puis il reprend d'ailleurs Jenna Ortega de Wednesday pour Beetlejuice. Fait que je pense que les astres se sont juste alignés. Il a trouvé en Jenna Ortega justement sa nouvelle... soit Nils. Christina Ricci ou Winona Ryder, là, les deux s'alternaient dans ces films au début des années 90. Mais je pense qu'ils ont bien fait d'attendre parce que c'est ce que ça donne. Tu sais, là, il y avait un fanbase, il y avait des gens qui étaient intéressés à le voir. Si je fais un parallèle avec un autre remake de cette année que personne n'a demandé, c'est Gladiator 2.
Gladiator, ouais.
Qui, tu sais, c'est pas... Même s'il y a eu le score du meilleur film, même s'il y a eu, tu sais, une belle... réception critique le premier film en 2000.
Ouais.
Personne n'a demandé une suite. Puis là, ben la suite est arrivée comme un cheveu sur la soupe, quasiment. Là. c'est arrivé comme ça sur nos écrans. Il y a eu de la promo, oui, mais est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt? Puis là, ben les gens un peu curieux qui sont allés le voir, ben on fait « Ah, ben c'est la même affaire que le premier. » Ce qui n'est pas vraiment le cas de Beetlejuice 2. Là. Oui, il y a ce qu'on appelle du fan service. Donc oui, on essaie de faire plaisir aux fans en ramenant certains éléments, certains callbacks justement au premier film. Mais on essaie quand même de s'en détacher puis d'offrir quelque chose de différent. Puis c'est là que je pense que ça a été gagnant pour Tim Burton et pour Beetlejuice. Reste qu'à mon avis, le film n'est peut-être pas à la hauteur du premier, mais c'est pas important parce que pour beaucoup de gens, c'est le seul qu'ils vont voir. T'sais, ils n'ont peut-être pas vu l'original. Ou tu sais, quand tu aimes un univers... aussi particulier que celui de Tim Burton, comme je mentionnais, c'est très beaucoup de gothique, beaucoup d'animation particulière aussi. Il aime beaucoup la stop motion, il aime beaucoup des effets spéciaux qui ne sont pas de CGI, mais qui sont un peu plus practical, comme on dit.
Oui.
Fait qu'il a son monde à lui, il a ses adeptes, donc c'est sûr qu'eux vont vraiment aimer la proposition. Fait que c'est un risque calculé. Je suis content qu'il l'ait fait. Là, je ne sais pas s'ils vont oser se rendre jusqu'au troisième. Parce que,
tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, la fin laisse savoir qu'il voudrait faire. Moi, j'ai fait comme non, là, arrêtez. T'sais. Mais en tout cas, je serais curieuse de savoir pourquoi toi, tu penses que ce n'est pas à l'auteur. Moi, je pense que oui, il y a beaucoup de fan service. Je pense, ben, comme je t'ai dit aussi hors d'onde, je pense que ils ont. Je pense qu'ils ont fait ce film-là, puis on dit, voici comment on peut un peu rapiécer l'histoire, donner, retourner, faire deux pas en arrière pour aller un pas en avant, puis espérer qu'on va peut-être avoir un troisième. Moi, je sais pas, ça leur a pris toutes mes attentes. Je m'en allais, quand j'ai décidé d'aller voir le film, c'est sûr que moi, je l'ai vu étant jeune. Là, j'ai dit, Beetlejuice, oui, ça va être bien. Puis, à un certain moment, je me suis... puis je me rappelle pas trop pourquoi, je me suis vraiment emballée d'aller le revoir. Peut-être les trailers, mais quand je l'ai vu, j'étais vraiment... ça a répondu à mes attentes. Moi, j'avais vraiment ce désir-là que ce soit pas plate, là, que ce soit pas comme justement quand tu l'avais dit dans ton autre segment, Gladiator, qui était la copie conforme. Et moi, j'ai ma petite histoire là-dessus, pourquoi Denzel... Et dans ce film-là, tu te rappelles-tu, il y avait pour l'Oscar du meilleur acteur, il y avait Denzel et Russell Crowe. Mm-hmm. Et Denzel avait fait un film vraiment, je pense que c'était... Non, c'était pas Training Day. Ils lui ont donné un Oscar pour Training Day. C'était un autre où ce qui était vraiment exemplaire. C'était un boxeur qui avait été emprisonné pour
Pose. Ça me revient pas.
Ça me revient pas, mais tu sais de quoi je parle.
Hurricane.
Et c'était lui contre Denzel. Et ils l'ont donné à Russell Crowe, que moi, j'avais aussi trouvé que Russell Crowe, oui, c'était bien, mais Gladiator est un film pas du calibre de Hurricane, d'après moi. Là. En tout cas, alors donc, qu'il soit dans le même film, c'est un peu... je pense que Hollywood lui a redonné la faveur, tout ça. C'est un peu de la politique dans tout ça. C'est pour ça que ça m'emballe.
Il y aura peut-être un Oscar d'acteur de soutien. Là. Il y a eu une nomination aux Golden Globes comme acteur de soutien. Donc,
peut-être
que ça va se transformer en nomination aux Oscars. On va le savoir en janvier prochain. Tant mieux. Denzel Washington, je trouve qu'on l'a perdu un peu de vue dans les dernières années. Là, il fait un peu moins de films, il fait plus des projets.
C'est ça. Mais de retour à Bethesda, moi, en tout cas, je pense. Fait que moi, je voulais juste comme. Je veux pas que ça soit une histoire qui tombe à plat, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve que le pari aussi, c'était un autre. Tu sais, nonobstant toute l'histoire autour de ce que le film soit fait, ils ont repris les bons éléments, je trouve, comme le fait qu'ils aient remis Bob, tu sais, la petite tête
la
Bob.
Petite tête, ouais. On l'a poussé même encore plus loin. Là. Il y en a beaucoup de Bob.
puis j'ai trouvé ça bien fait. J'ai trouvé ça drôle. Même la chimie entre Delia, la mère Catherine O'Hara, je pense que c'est son nom, qui est une actrice tellement magnifique. Puis la façon dont elle meurt, c'était comme un peu plus parodie peut-être du premier. En tout cas, pour moi, tout a marché. Même, je ne sais pas si tu t'es rendu là, le fait qu'il y avait beaucoup de numéros comme à la comédie musicale. Et j'ai appris d'ailleurs que pour refaire l'histoire, ils ont emprunté un peu de la comédie musicale, dont le fait d'aller dans l'autre monde, tout ça. J'ai vraiment apprécié ça. Le Soul Train, tu sais, des âmes, là, tu sais, The Soul Train, tu sais, avec... Ouais. Ils ont repris. J'ai trouvé, c'était tongue in cheek, mais pour moi, c'était comme, ah, c'est bien fait, je suis satisfaite, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais un deuxième, c'est tout, là. Pour moi, pas de troisième, s'il vous plaît.
T'sais. On a fait le tour, ouais, c'est
On
ça.
On a fait le tour, c'est ça.
Ouais. Ben, tu sais, moi, honnêtement, je le trouve bien quand même. Là, le premier, selon moi, il est parmi les meilleurs films de Burton. T'sais, je l'avais regardé aussi avant de voir le deuxième. Puis il a super bien vieilli. Puis il est vraiment très dynamique. Là, je retrouve certains éléments, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai plus mon cœur d'enfant? Est-ce que c'est parce que... Je ne sais pas. Je suis un peu... je trouve aussi qu'il y a une signature visuelle un petit peu différente du premier. Malheureusement, je m'ennuie un peu des tournages sur pellicule. Il y avait du grain dans l'image un peu. Il y avait une certaine distance. Aujourd'hui, on dirait que tout est poli. Puis on dirait que ce polissage-là se prête pas bien à l'esthétique un peu plus dark ou un peu plus punk, si j'ose dire, de Tim Burton. Fait qu'on dirait que c'est ça, il y a un peu... Tu sais, c'est le même feeling que j'avais un peu dans Wednesday, que j'ai regardé. Je ne l'ai pas regardé au complet, là, mais j'ai regardé certains éléments. Puis je trouvais que c'était bien, que c'était la signature de Burton, mais qui manquait, je sais pas, le... Je sais pas. Il manquait
je vois ce que tu veux dire parce que c'est sûr que tout était comme ils ont focusé sur le comique, tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Il n'y avait pas l'aspect un peu de Lydia qui était vraiment tout. J'ai trouvé Winona Ryder super drôle, en fait. Là. C'est plus une Winona Ryder mère, fait qu'elle est toujours avec le même. Costume ou habillement gothique, mais ça le vend moins quand t'as une cinquantaine d'années que quand t'es une jeune fille, là, tu sais. Puis ça, c'est juste les costumes, l'aspect des personnages, mais comme tu dis, l'aspect du film, tout ça, c'était moins là. Il y avait plus d'emphase de rendre ça drôle. Je pense que Michael Keaton s'est dépassé. Moi, j'ai aimé sa performance. Il a fait le film. J'ai aimé aussi Monica Bellucci. J'ai trouvé que ça fitait dans l'histoire, c'était drôle, mais c'était plus comique puis un peu moins dark. Par contre, le personnage du chum, que j'ai aussi oublié son nom, d'habitude, je me rappelle des noms.
Justin Theroux, mais là, je ne sais plus.
Ça, c'est le chum de Winona, qui était très drôle, mais le chum de Astrid, qui finalement, il y a des surprises sur lui. Lui, je l'ai trouvé assez dark. Tu sais, quelque chose. Donc, peut-être ça s'est retrouvé dans lui, mais c'était pas nécessairement gothique. C'était juste un petit peu plus gothique. Ouais, c'est vrai. Non, ça, je te le donne. Il y avait moins cet aspect-là, en effet.
Mais quelle suite nous réserve tout ça? Est-ce qu'il y aura un Beetlejuice 3? Est-ce qu'il y aura d'autres suites inattendues dans la prochaine année? Je sais pas. J'ai pas fait le tour. Là on est plus dans des remakes en ce moment avec Nosferatu, avec plein d'autres films qui sortent bientôt, là, qui sont des remakes de plus vieux films. Encore une fois, c'est ça. Je pense que quand l'équipe créative du premier film n'est pas impliquée dans les suites, c'est là que ça devient plus compliqué à... je sais pas, à attirer le public peut-être, mais tant mieux si c'est ça, Beetlejuice 2 a été un succès. On en souhaite, on en veut des succès.
On en veut des succès. Et je l'ai dit sur une cotation, je pense que j'ai vu une interview avec Michael Keaton où il dit « Le film, vraiment, les gens avaient besoin de rire dans les temps où nous sommes, puis je pense qu'il a raison. » Fait que ça fait que toute cette histoire, c'est comme une épopée, en fait, d'avoir fait un premier film qu'on ne s'entendait pas qu'il soit autant de succès, avec un deuxième qui, oui, peut-être n'est pas aussi bon que le premier, mais quand même a réussi son pari. Je trouve que le film et l'histoire autour du film fait une très, très belle histoire.
Oui, exact. Ben, merci beaucoup, Émilie. Merci de nous avoir présenté ce dossier sur Beetlejuice. On se reparle peut-être la semaine prochaine, je suis pas certain, peut-être.
On verra
certain. Sinon, au retour des fêtes. Merci beaucoup, Émilie.
Merci, Alex. Bye-bye.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Collés les uns aux autres sans narration.
Je veux terminer l'émission cette semaine en vous parlant de deux galas. Le premier qui est les nominations en fait pour la 82e édition des Golden Globes qui ont été annoncées un peu plus tôt cette semaine. Et le deuxième, bien, c'est sur les prix Iris du Gala Québec Cinéma qui ont été attribués dimanche dernier. Je commence avec les Golden Globes. Faire un petit tour d'horizon vite sur la partie cinématographique là, parce qu'on se souvient, les Golden Globes remettent des prix tant pour la télévision que le cinéma. Si vous connaissez bien les Golden Globes, ben, y a deux catégories meilleurs films, soit celle drame et celle comédie ou musical. On a étiré peut-être un peu la notion de comédie musical cette année, mais comme on le fait un peu à chaque année. Donc pour la série, pour la section en fait drame, il y a six films en nomination. A Complete Unknown, qui est la biographie sur Bob Dylan qui va sortir à Noël, je crois, là, et qui s'en vient très prochainement. Conclave, très très bon film d'Edward Berger. Dune, partie 2. Nickel Boys, September 5 et The Brutalist. The Brutalist aussi, j'ai bien hâte de le voir. Il va probablement sortir au Québec là, en janvier. C'est le nouveau film de Brady Corbett qui a gagné meilleure réalisation, je crois, à la Mostra de Venise et puis qui était considéré comme un film épique sur l'histoire américaine début 20e siècle. Donc ça a l'air très très bon. 3h30, je pense, comme film. Donc ça va être tout un engagement. Mais allez voir la bande-annonce, c'est vraiment très particulier. Meilleur film musical or comedy, il y a A Real Pain, le nouveau film de Jesse Eisenberg, Anora, la plus récente Palme d'Or, Challengers, Emilia Perez, qui est disponible d'ailleurs sur Netflix, le nouveau film du français Jacques Audiard, The Substance, quand je dis qu'on a tiré un peu la catégorie, c'est un film comique un peu, là, mais c'est d'abord et avant tout un film d'horreur, un film de body horror. Et Wicked, donc qui connaît vraiment un très bon succès. Meilleur film d'animation, donc on a Flow, dont on a parlé un peu plus tôt à l'émission. Inside Out 2, Memoir of a Snail, qui va probablement prendre l'affiche en janvier ici à la Maison du cinéma. C'est le même réalisateur que Mary and Max, si vous l'aviez vu, là, ce film-là, en 2009, je crois, 2010. Vraiment très, très bon film d'animation. Et celui-là a l'air tout aussi bon. Moana 2, pardon, The Wild Robot et Wallace et Gromit Vengeance Most Foul. Je sais pas trop qui va se dégager de cette course-là. J'ai l'impression qu'on le donnera pas à Pixar. Fait que ça va probablement être entre The Wild Robot, Memoir of a Snail et Flow. Mais tout peut encore nous surprendre. Meilleur film j'essaie de traduire le non-English language. Bref, avant ça, c'était la catégorie film étranger, film international. Bref, là, on est rendu langage. Ce qui est probablement pour ça pourquoi Flow n'est pas en nomination, parce qu'il n'y a pas de langue dedans. C'est un film muet, mais bref. All We Imagine Is Light, le film indien qui a gagné le Grand Prix à Cannes et dont on a parlé la semaine dernière, je crois. Emilia Perez, encore une fois. I'm Still Here, le nouveau film de Walter Salles, qui avait fait notamment On the Road, là, puis The Motorcycle Diaries. The Girl with the Needle, lui aussi, est très, très bon film d'horreur, côté 2 parmi Mediafilm, qui va prendre l'affiche en janvier ici. The Seed of the Sacred Fig et Vermiglio. Côté meilleure actrice drame, ça aussi on sépare les catégories dramatique et comique. Donc on a Angelina Jolie pour Maria, Fernanda Torres pour I'm Still Here, Kate Winslet pour Lee, Nicole Kidman pour Baby Girl, Pamela Anderson pour The Last Showgirl. Ça aussi, là, c'est le film de la petite fille de Francis Ford Coppola. C'est son deuxième long métrage, si je ne m'abuse. Ça a l'air qu'elle est très, très bonne, Pamela Anderson, là-dedans. Et Tilda Swinton pour The Room Next Door, le premier film anglophone de Pedro Almodovar. Du côté des acteurs pour la comédie. Pour la catégorie drame, on a Adrien Brody pour The Brutalist, on a Coleman Domingo pour Sing Sing, Daniel Craig pour Queer, qui prend l'affiche aujourd'hui, Ralph Fiennes pour Conclave, Sebastian Stan pour The Apprentice, le biopic-ish de Trump, et Timothée Chalamet avec A Complete Unknown. Côté meilleure actrice, musical or comedy, on a Amy Adams pour Night Bitch, on a Cynthia Erivo pour Wicked, on a Demi Moore pour The Substance, Carla Sofia Gascon et c'est pour l'autre catégorie, mais bref, pour Emilia Perez, Mickey Madison pour Anora et Zendaya pour Challengers. Mais meilleur acteur musical or comedy, on a Gabriel Labelle pour Saturday Night, le biopic sur SNL, Glenn Powell pour Hitman, Hugh Grant pour Heretic, là aussi on a étiré un petit peu la sauce, un autre film d'horreur, bon, un petit peu comique quand même, Jesse Eisenberg pour Real Pain, Jesse Plemons pour Kind of Kindness, le nouveau film de Yorgos Lanthimos, et Sebastian Stan pour un autre film, pas pour The Apprentice, mais pour A Different Man. Pardon, je perds la voix. Meilleure actrice de soutien, cette fois. Là, il n'y a pas de distinction pour catégorie drame ou comédie. On a Ariana Grande pour Wicked, Felicity Jones pour The Brutalist, Isabella Rossellini pour Conclave, Margaret Qualley pour The Substance, Selena Gomez et Zoe Saldana pour Emilia Perez. Et meilleur acteur de soutien, donc on a Denzel Washington pour Gladiator 2. D'ailleurs, je pense que ça pourrait très bien s'en aller vers lui, ce prix-là. Peut-être même l'Oscar aussi, là, il crève l'écran. C'est vrai, assurément le meilleur aspect du Gladiator 2. On a Edward Norton pour A Complete Unknown. On a Guy Pearce pour The Brutalist. Jeremy Strong pour The Apprentice. Kieran Culkin pour A Real Pain. Et Yura Borisov pour Anora. Si vous avez vu Anora, là, c'est le troisième henchman, l'homme de main, qui est très, très comique, pour vrai. Je suis quand même heureux qu'il se retrouve là, parce que c'est un acteur qu'on connaît pas vraiment, mais il a un très, très bon rôle dans ce film-là, donc allez voir ça, Nora, il est encore, je crois, à l'affiche. Je termine avec meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur, toutes catégories confondues. Donc, on a Brady Corbett pour The Brutalist, Coralie Farjet pour The Substance, Edward Berger pour Conclave, Jacques Audiard pour Emilia Perez, Payal Kapadia, donc pour le film indien All We Imagine as Light, et Sean Baker pour Anora. Et j'ai dit que j'allais terminer, mais il me reste en fait deux catégories. Il reste meilleur scénario, donc encore une fois, The Brutalist, The Substance, Emilia Perez, A Real Pain, Conclave et Anora. C'est les mêmes que pour la réalisation. Et meilleur trame sonore, donc on a encore une fois Emilia Perez de Brutalist d'une partie 2 qui a officiellement été disqualifié, je crois, de la course des Oscars parce que il reprend en grande partie la musique de Dune 1, et donc ça le discrédite vu que c'est musique originale. Bref, il avait gagné Hans Zimmer pour Dune partie 1, donc il ne pourra pas gagner pour la partie 2 malheureusement. Sinon, il y a The Wild Robot, Challengers et Conclave, encore une fois. Voilà. Ah oui, il y a une nouvelle catégorie aussi, j'ai oublié de la mentionner, mais c'est, je sais pas trop comment la traduire, là, c'est des catégories Cinematic and Box Office Achievement. Succès au box-office et succès critique peut-être, je sais pas trop. C'est des films, là, c'est ça, qui ont absolument un peu plus populaires, qui reçoivent un peu moins de nominations, mais qui sont, somme toute, appréciés du public, on va dire ça comme ça. Il y a Alien Romulus, Beetlejuice, Deadpool et Wolverine, Gladiator 2, Inside Out, The Wild Robot, Twisters et Wicked. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour des plus récentes nominations aux Golden Globes. La cérémonie va se tenir, là, je suis plus certain, je crois que c'est le 5 janvier. Je suis plus certain. C'est soit le 5 ou le 12 janvier. Je crois que c'est le 5. Habituellement, c'est quand même tôt après le retour des fêtes. Donc voilà, manquez pas ça. On fera un retour sur les gagnants à l'émission en janvier. Sinon, je vais rapidement avec les prix Iris là, qui ont été remportés dimanche dernier. Meilleur film, Vampire humaniste, Cherche suicidaire consentant. On avait d'ailleurs reçu Ariane Louis-XVI, la réalisatrice, dans un ciné-club. Allez voir ça sur YouTube. C'était très intéressant. On avait meilleur premier film. C'est encore une fois Vampire humaniste qui l'a emporté. D'ailleurs, il a remporté beaucoup de prix. prix, ce film-là. Meilleure réalisation, c'était Monia Chokri. Meilleur scénario, c'est encore une fois Vampire humaniste. Meilleure actrice, c'était Ariane Castellanos pour Richelieu. Et c'est d'ailleurs le même prix pour l'acteur de soutien, donc Marc-André Grondin pour Richelieu. Meilleure interprétation masculine, on a Théodore Pellerin pour le film de Sophie Dupuis, Solo. Meilleure actrice de soutien, c'était Sandrine Bisson. Encore une fois, son deuxième Iris pour le même rôle, le rôle de Claudette, la mère de Ricardo Trogi, dans 1995. Et on a Révélation de l'année, donc qui est allée aussi à Ariane Castellanos, donc de Richelieu. Et un meilleur film documentaire, c'est Laisse les eaux de Kaveh Nabatian. Le prix Michel Côté, donc le succès populaire, si on veut, ben, c'était Nos belles sœurs, donc de René Richard Cyr, et un prix hommage qui a été remis à Denis Villeneuve, qui était assurément la meilleure partie de ce gala Québec Cinéma animé par Phil Roy. Donc voilà, ben, ça fait un petit tour. La semaine prochaine, on va continuer notre recap des films de 2024. Et je crois qu'en début janvier, on va pouvoir faire proprement notre top de cette année, parce qu'on va voir quelques films dans le temps des fêtes. Ben, d'ici là, ben, allez voir la cartomancie du territoire qui sera diffusée ce dimanche à la Maison du cinéma. Allez voir Flo aussi, ce film d'animation vraiment très très bon. Et puis voilà, j'aimerais remercier Émilie Boivin et Philippe Ducrot d'être venus nous parler à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné-Histoire.